m'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de nous accepter chez vous, mesdames et messieurs. Une fois encore, merci de votre fidélité. À parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Le projet de loi visant la réduction du quorum des membres de la Cour constitutionnelle est en cours d'examen à l'Assemblée nationale. La démarche du gouvernement divise les députés et membres de la commission politique, administrative et juridique, PAJ en sigle, de l'Assemblée nationale. Certains députés de l'opposition estiment que la démarche du gouvernement de réduire en dessous de 5 le nombre des membres pouvant délibérer vise à écarter toute possibilité de contradiction au sein de cette instance et casser le principe de consensus dans la prise des décisions. Alors comment commentez-vous cette actualité? Vous pouvez participer à cet échange à l'adresse pa@radiocapi.net. Vous pouvez également nous rejoindre ou appeler directement au 081 890 63 80 ou bien au 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Notez que Pierrot et Lamégie réalisent cette émission mise en onde par Jean-Claude Ntiala. Nico Kalambay assure plutôt la gestion des standards de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji sous la supervision de Martin Sebujangwe. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
La Cour constitutionnelle de la RDC a été installée officiellement en avril 2015. Les 9 membres désignés et nommés par le décret présidentiel ont prêté serment ce même 4 avril 2015 en présence du bureau de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil supérieur de la magistrature. Il faut dire que la nation congolaise, dans toute sa diversité rassemblée, a salué l'avènement de la plus prestigieuse de ses institutions judiciaires, à savoir la Cour constitutionnelle. Cela soit 55 ans après l'indépendance du Congo. Cette installation, a exprimé, ou pour les uns et les autres, exprimé volontiers donc la volonté politique de ceux qui gouvernent le pays, de consolider la réforme de l'État et de garantir la pratique démocratique au Congo. 2 ans après, déjà une proposition de la réduction des nombres de ses membres ou du quorum de ses membres s'est posée est en discussion au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les espoirs risquent encore de s'envoler? Nous avons en ligne monsieur l'honorable Ekombe Mpechi Toussaint, qui est avec nous. Bonjour, honorable.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes député national, ancien président de la commission PAJ du Sénat, législature 2006. Comment commentez-vous cette actualité?
Bon, en fait, ce texte-là, nous ne l'avons pas eu en séance plénière. Nous avons appris, comme tout le monde, que la commission PAJ, dont je ne suis pas membre, était en train de débattre d'un projet de loi déposé par le gouvernement tendant à réduire le quorum de siège qui devrait passer de 9 ou 7 à 7. Ce texte-là, nous ne l'avons jamais eu en séance plénière. On n'en a jamais débattu. Donc, l'Assemblée plénière l'ignore. Parce qu'il n'y a pas eu de débat général sur la question.
Alors, est-ce que dans la pratique, de législative, on peut débattre d'une question dans la commission sans passer par la plénière?
C'est une première. C'est une violation à la fois de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Textes qui viennent du gouvernement, appelés projets de loi, ou ceux qui viennent des députés, appelés propositions de loi, doivent d'abord être soumis à débat au niveau de la séance plénière. Et c'est la séance plénière qui devra juger de sa recevabilité. Si l'Assemblée plénière juge ces textes recevables, ils sont envoyés en commission pour un examen approfondi. Dans les cas d'espèce, rien de tel n'a été fait et c'est une violation du règlement intérieur.
Alors, si jamais cette option qui, au fait, vient d'être élevée, et vous l'avez dit, il y a tout de même une nébuleuse dans la pratique législative, est-ce que c'est réel, ça peut passer aujourd'hui, lorsque on nous a laissé entendre que les 9 membres ont un mandat, ont été désignés pour un mandat de 9 ans. Est-ce qu'au cours de leur mandat, on peut faire une telle proposition?
Non, je crois qu'il faut apporter quelques précisions. Le nombre de membres de la Cour constitutionnelle, c'est un nombre fixé par la Constitution. Ils sont 9. Donc, pour changer le nombre de membres de la Cour constitutionnelle, il faut modifier la Constitution. Ce qui n'est pas à l'ordre du jour, à ce moment-ci. Ce qu'on voudrait modifier par la loi, c'est le quorum. C'est-à-dire le nombre de magistrats, le nombre de membres de la Cour qui doivent être présents pour que la Cour siège, pour que la Cour délibère et rende une décision. Actuellement, la loi organique dit qu'il faut 9 membres. Mmh. Et si 2 de ces membres maximum sont empêchés, 7 membres peuvent siéger et décider. Donc, le projet de loi dont vous parlez là voudrait réduire ce nombre, le quorum donc à 5. Voudrait réduire le quorum à 5. Mmh. Est-ce que on peut modifier la loi organique? Je dis oui, on peut toujours modifier la loi organique, mais il faut le faire en suivant la
conformité
procédure.
À la Constitution. Mmh.
Et surtout, il faut le faire en voyant l'opportunité. Est-ce que la modification projetée est opportune? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on vise? Qu'est-ce qu'on voudrait corriger? On voudrait corriger quoi pour aboutir à la réduction du nombre? Qu'est-ce qu'on vise? Et c'est ça la question à laquelle il faut répondre. Mais est-ce qu'on peut modifier? On peut toujours modifier. On peut le faire en respectant la procédure en vigueur. Mais on ne peut pas les faire en enjambant les débats généraux de l'Assemblée plénière et en passant directement en commission. Là, c'est une violation à la fois de la Constitution et du règlement intérieur.
Alors, parce que vous l'avez si bien dit, honorable, que la modification est possible. Mais alors, il y a un auditeur qui nous a écrit, c'est Maître Gervais d'ailleurs, à qui nous allons accorder la parole tout à l'heure, qui dit qu'après sa petite étude comparative dans d'autres pays comme la France, les États-Unis d'Amérique, l'Espagne et la Belgique, il pense que cette démarche est très dangereuse, si vous le permettez. Donc, on va l'écouter quand même pendant une minute. Maître Gervais, vous êtes avec nous à Calémie. Bonjour.
Bonjour, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio au Cap.
Alors si vous pouvez nous dérouler un peu votre étude comparative par rapport à cette question, par rapport à cette thématique.
Oui, par rapport à cette thématique, et en fait une étude comparative, c'est ça, j'ai trouvé. Par exemple, depuis le 4 octobre 1958, la Cour constitutionnelle, anciennement appelée Conseil constitutionnel français, et en 2007, cette cour est devenue cour constitutionnelle. Elle ne siégeait qu'à 9. Arrivé en Belgique, on a trouvé toujours 12 plus des greffiers et 24 référendaires. Aucune modification jusque-là. Aux États-Unis, c'est depuis 1789, c'était 9, mais au début, à l'origine, cette cour siégeait à 7, mais depuis 1869, elle siège maintenant à 9, mais il n'y avait pas de modification. Mais ici, chez nous, je passe si les modifications qui ont poussé à ce que le gouvernement puisse donner ce projet de loi pendant que le mandat de ces gens-là, les membres-là, n'est pas encore arrivé au terme. En plus de cela, dans 2 ans chez nous, du 18 février 2006 et la mise en œuvre en 2015. Dans quelques années, nous comptons déjà avoir des modifications. Et cela, ça donne une très mauvaise image. Ça produira des conséquences néfastes dans l'avenir. Quand le quorum n'est pas atteint.
Alors, vous personnellement, Gervais, est-ce que vous avez une idée? Vous pouvez imaginer quelles sont les motivations de cette proposition?
Voilà, c'est ce que je me pose. Donc, c'est une question que je me pose. Je ne sais pas, soit les juges siégeant à cette cour-là n'était pas à la hauteur ou combien d'arrêts qui ont été déjà rendus, donc peu d'arrêts. Mais nous avons, par exemple, aux États-Unis, une affaire de 1800 arrêts, mais aucune modification jusqu'à aujourd'hui. Mais le fait de réduire les membres siégeants à la cour d'appel et à la cour constitutionnelle ne nous produira pas vraiment des bons résultats. Il serait mieux d'ajouter que de réduire.
Merci beaucoup. Merci,
et
Gervais.
En plus,
oui, allez-y. Oui, allez-y. En
Allô?
Plus, oui, allez-y.
Je dirais ceci, la charge aussi. Oui, la charge revient aussi au Sénat de ne pas respecter, parce qu'en France, j'ai pris un peu, il y avait une certaine proposition en 1990 où le Sénat avait toutefois rejeté cette proposition. Je ne sais pas maintenant, ça revient à la compétence du membre du Sénat aussi de s'impliquer par rapport à ça pour bien protéger la société congolaise. Sinon, c'est une mesure très dangereuse.
Merci beaucoup, Maître Gervais, d'avoir appelé de Calémi et aussi avoir soutenu que c'est une démarche très, très, très dangereuse après avoir fait quelques études comparatives dans d'autres pays comme la France, les États-Unis d'Amérique, l'Espagne et la Belgique. Vous pensez que cette démarche est très dangereuse, quoi que l'on dise qu'à chaque règle ou société, à chaque exception, par exemple, en France, donc vous l'avez dit, depuis le 4 octobre 1958, les conseils constitutionnels et en 2007, cours constitutionnels, c'est toujours 9 membres. Plus les anciens présidents de la République. Donc, nous qui avons calqué la constitution de la RDC par le modèle français, donc je crois que nous avons intérêt, selon vos propos, de garder toujours le même membre. Merci beaucoup. Alors, Guy Blaise Kititi, vous êtes avec nous. Vous avez appelé de Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, J.R. Lungembon. Bonjour pour les auditeurs de la Radio Capi.
Est-ce que vous vous posez sans doute la même question? Quelles sont les motivations de cette proposition de vouloir réduire les quorums des sièges de la Cour constitutionnelle?
Oui, je me pose la même question. J'ai suivi un auditeur à parler de l'opportunité. Moi, je vais ajouter la finalité. Quelle est la finalité d'une telle proposition? Donc, moi, je crois que, est-ce que c'est une finalité juridique, une finalité sociologique? Moi, je crois que la finalité, c'est politique. Parce que maintenant, comme un auditeur a dit, le droit congolais est calqué sur le modèle du droit français. Cela étant dit, le modèle de droit français, les membres du Conseil constitutionnel, de la Cour constitutionnelle, c'est à 9. Si la loi organique du 15 octobre a proposé 9 membres, mais je crois qu'il y avait un motif pour que les décisions de cette Cour soient prises de manière collégiale. Alors, si aujourd'hui, nous avons une affaire, le précédent c'est dans l'affaire de la CENI. Est-ce que c'est ce précédent-là qui a fait que la Cour ne siège pas au nombre de 7 et à 5 qu'on a pris une décision? Moi, je crois que quelque part, on veut dire. Il ne faut pas déjà déstabiliser les institutions parce que la Cour constitutionnelle a pour motif et pour rôle, c'est de vérifier, de vérifier la constitutionnalité et même à la constitution des textes et des lois. Donc, je crois qu'il n'y a pas une finalité juridique ou sociologique. Moi, j'ai une finalité politique.
Voilà.
Voilà un peu, c'est ma position. Je crois que comme le mandat demande de la Cour constitutionnelle, il faut peut-être attendre parce que 3 ans, une fois renouvelé, il y aura peut-être des juges dont les mandats ne seront pas renouvelés. Ça, c'est certain.
Oui. Alors, Guy Blaise, parce que vous êtes aussi analyste politique, c'est vrai, vous avez estimé qu'il s'agit là d'une finalité politique. Est-ce qu'il faudrait que, à chaque fois que la politique puisse tenir le droit, quand il y a un fait politique, que cela puisse changer des choses de manière juridique?
Bon, je crois que le droit, lorsqu'il faut régir, c'est la société, soit la société politique, c'est la politique. Un auteur a dit, faites-moi de la politique, je ferai de la bonne économie, et moi j'ai dit, je ferai du bon droit. C'est-à-dire que le droit domine, la politique domine tout, et le soubassement sur le droit, c'est vrai. Mais si déjà le soubassement qui est le droit commence à être bousculé, je crois que la politique risque d'impacter. Voilà mon point de vue.
Alors, quand vous observez, par exemple, que la procédure législative a été biaisée, un débat déjà engagé au niveau de la commission sans passer en plénière, quel commentaire faites-vous?
Non, c'est une démarche biaisée, parce que la procédure, nous tous, nous connaissons, nous suivons les activités au Parlement, nous suivons comment s'accepter la procédure. Un auditeur a dit, je soutiens son point de vue, en disant qu'il faut passer par la plénière, il faut, lors de l'ordre du jour, il faut en débattre à la plénière et renvoyer à la commission. C'est ça, c'est clair, et c'est la commission qui devrait traiter de cette question et de déposer le rapport à la plénière et en discuter. Et à la fin, la plénière devait voter. Et à l'issue du vote, on devait trouver et dire déjà passé le projet ou la révision de la loi organique, déjà au niveau des commissions. Moi, je crois que c'est biaisé.
Alors, juste une dernière question de curiosité, Guy Blaise. Certains pensent que les critères d'ailleurs de désignation ont été aléatoires dès le départ, parce que l'article 2 de cette loi organique stipule que la Cour constitutionnelle comprend 9 membres âgés de 45 ans au moins, choisis pour leur bonne moralité. Elle est composée de 2 personnalités reconnues pour leur probité et leur sagesse, dont une proposée par le bureau de l'Assemblée nationale et une proposée par le président de la République.
Mais c'est ça justement, le mode de désignation, tel que les critères ont été fixés, tel que cela a été fixé, c'est déjà la démarche a été faussée, le fond qu'on rend la forme, ou comme vous le savez. Donc des membres qui ont été désignés, je donne un exemple, c'est un exemple, à quel titre on devait désigner le président de la Cour constitutionnelle? Quel était le père? Parce que c'est quelqu'un qui était déjà en retraite. Vous voyez, si on se pose une certaine question, on se dit que quelque part la désignation de ces membres, quel que soit d'où provient l'élu, quelle que soit la provenance, assemblée, ou que ce que vous voulez, est-ce que c'était des critères objectifs? Est-ce que ces gens qui ont été désignés, il y a des professeurs de droit, professeurs de droit public, professeurs de droit constitutionnel, oui, est-ce qu'ils ont, ils font leur travail? C'est ça la question principale. Voici ma préoccupation.
Merci. À cette question. Merci beaucoup, Guy Blaise, qui est ici d'avoir appelé de Kinshasa. Alain Bolodjoa, bienvenue dans cette émission. Et vous êtes nombreux à arriver en ligne. Nous allons vous accorder, en tout cas à chacun et à tous, donc la parole tout à l'heure. Alain Bolodjoa, bonjour et bienvenue.
Bonjour Fabio, Okapi, bonjour à tout le monde.
La Cour constitutionnelle installée à l'avril 2015, 2 ans après, il y a déjà des tentatives de revoir le quorum de siège. Quel est le commentaire que vous formulez?
Bon, en fait, ça dénote déjà d'une certaine volonté à ne pas faire jouer dignement à cette Cour son rôle. Alors, si nous prenons en termes de finalité de son action, c'est une Cour qui prend en dernier ressort des décisions qui peuvent mettre en bien comme en mal le fonctionnement de l'État. Moi, j'estime de mon point de vue que la première approche qui voudrait assez que l'on mette plus l'accent sur le consensus en termes de mode de prise des décisions était la meilleure. Aujourd'hui, si nous optons dans le sens d'aller vers une représentation simple, c'est-à-dire avoir 5 personnes sur les 9, donc quelque part ça va déjà vider la substance même de cette philosophie qui a sous-tendu la création de cette Cour. Parce que la crainte maintenant c'est quoi? C'est qu'on voudrait simplifier les choses en termes de fonctionnement. On voudrait assez que s'il y a 5 personnes, que ces personnes puissent arriver à prendre des décisions ou qu'on puisse acter facilement les décisions. Mais on semble oublier que si la Cour prend une décision ou un arrêt, cet arrêt ne peut pas être attaqué. Ce qui veut dire que au-delà de la Cour, il n'y a aucune instance de l'État qui peut trancher sur la Cour ou les décisions de la Cour. Donc quelque part, j'ai dit, compte tenu de la complexité de questions qu'elle est appelée à prendre ou à traiter, compte tenu de la suprématie de ces décisions par rapport à d'autres organes, on doit plus mettre l'accent sur le consensus que sur une simple constatation de décisions qui pourraient aussi être influencées par la vie politique. Moi, je ne vois pas pourquoi on doit changer...
Oui, mais allez, tout à l'heure, je posais la question à Guy Blaise. Faudrait-il attendre qu'il y ait un fait politique pour directement penser à une quelconque révision ou encore modification d'une loi organique? Parce que pour le cas d'espèce, je crois qu'il est secret pour personne, le fait que les quorums n'étaient pas atteints lorsque la Cour devait prendre une décision ou un arrêt sur un problème de l'État, sur la conformité ou l'interprétation de l'article 70 de la Constitution, et cela a fait l'actualité et ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui les faits, en tout cas jusqu'à quand la politique doit continuer à tenir les droits?
En fait, c'est ça le danger, en fait. C'est ça le danger où on cherche à politiser tout, on cherche à justifier tout par des faits conjoncturels. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir la mission dévolue à cette Cour. C'est de voir le pouvoir exorbitant qu'a cette Cour. si on doit se référer à un fait conjoncturel qui n'a pas permis à ce que nous ayons une bonne analyse sur le fonctionnement de la Cour, eh bien, ça risque de mettre le pays en mal. Parce que ce qui est important, de mon point de vue aujourd'hui, c'est de laisser la Cour telle qu'elle est et de plutôt jouer sur les individus, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire sensibiliser les gens qui constituent la Cour pour qu'elles arrivent, ils arrivent à transcender leurs faiblesses et à lever les options politiques et juridiques à la fois. Parce que la Cour n'est pas constituée que des juristes. Il y a aussi des politologues, il y a d'autres disciplines. Mais le danger que moi je vois dans cette démarche, c'est de donner l'impression comme si à chaque fois qu'il y aura un ça ne va pas dans la Cour, on doit lever des options politiques, on doit adapter par rapport à l'environnement, et nous risquons d'avoir une Cour qui est assujettie, qui est à la solde de la classe politique. On doit laisser la Cour être indépendante, et comme ça, ça va nous garantir une certaine équité dans...
Alors, est-ce que vous pensez comme Guy et Blaise qui disait tout à l'heure, quand je lui posais la question sur les critères de désignation, sont-ils aléatoires ou objectif réellement? Parce que quand on lit, on scrute un peu cette loi organique, en son article 2, la Cour constitutionnelle comprend 9 membres âgés de 45 ans, au moins choisis pour leur bonne moralité. Elle est composée de 2 personnalités reconnues par leur probité et leur sagesse, dont une proposée par le bureau de l'Assemblée nationale et une proposée par le président de la République, 3 magistrats ayant au moins 20 années de pratique désignées par leur père et un avocat ayant au moins 20 ans de pratique élu par ses pairs. Pourquoi ne pas laisser les pairs désigner carrément? Ça pourrait peut-être jouer sur cette indépendance que vous évoquez aujourd'hui.
Bon, la philosophie qui a conduit à la création de cette Cour ne voulait pas que nous ayons une république des juges. On voulait aussi qu'on intègre une approche politique et sociologique. Voilà pourquoi on a réparti de la sorte la composition de la Cour. Mais ce qui est important, c'est plutôt les valeurs intrinsèques qui caractérise les animateurs de cette Cour. Ce n'est pas seulement en termes de choix, parce qu'on peut aussi laisser la latitude aux juges ou aux magistrats de choisir les animateurs de la Cour, mais rien ne nous garantit qu'ils seront, ils auront une probité morale voulue. Donc ce qui est important, c'est de laisser libre arbitre à ces gens, mais en insistant plutôt sur le rôle qu'ils doivent jouer. Parce qu'apparemment, la Cour aussi n'a pas une certaine indépendance en termes de conception, en termes d'action. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart de nos concitoyens doutent encore de la crédibilité de cette Cour. Lorsque vous avez fait, en faisant référence à ce que vous avez donné là, comme exemple, ça a suscité un débat. Bien que l'intention ou les intentions de la Cour pouvaient être nobles, mais le fait seulement que la composition a posé problème, la démarche poursuivie a posé problème, eh bien ça décrédibilise directement la Cour et ça met même en mal le fonctionnement de l'État. Supposons qu'aujourd'hui que nous ayons les élections, que la Cour puisse trancher en dernier ressort et que les personnes contestent la décision de la Cour. Voyez donc la valeur de la Cour ou la valeur intrinsèque de la Cour conditionne même le bon fonctionnement de l'État. Voilà pourquoi moi j'ai dit ce qui est important, que nous mettions, que la Cour mette plus l'accent sur le consensus que sur d'autres mécanismes de décision. Parce que lorsqu'il y a consensus, c'est-à-dire on a réfléchi, on a décidé en âme et conscience, et cela va permettre à ce que nous puissions atteindre l'objectif qui est la justice.
Merci beaucoup Alain. On va revenir à notre invité qui est en ligne, honorable Ekombe Mpetshi Toussaint, député national, ancien président de la commission PAJ du Sénat, législature 2006. Honorable Ekombe, vous êtes encore en ligne. Voilà. Après avoir suivi les uns les autres, quel est votre commentaire lorsque, par exemple, on évoque la question sur les critères des désignations qui semblent être pour les uns et les autres aléatoires et d'autres qui estiment qu'aujourd'hui la finalité n'est pas juridique, la finalité n'est pas sociologique par rapport à cette intention, elle est beaucoup plus politique.
Bon, s'agissant de critères de désignation, je n'ai pas les textes de la loi sous les yeux. Je suis dans ma voiture, donc je suis en train de vous parler de ma voiture, je n'ai pas les textes sous les yeux, mais je sais que la Cour est composée de 9 membres. 9 membres issus de 3 autorités de désignation. 3 sont désignés par le président de la République, à sa propre initiative. Trois sont désignés par les deux chambres du Parlement et trois aussi sont désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Les deux tiers de ces neuf membres doivent être des juristes. C'est-à-dire, on doit avoir six juristes dans la composition de la Cour. Et puis, ils doivent provenir du barreau de la magistrature, les juristes du moins, du barreau de la magistrature et de l'université. Et alors, ceux qui sont issus de ces milieux-là doivent réunir les critères que vous avez cités. Est-ce que ces critères-là sont aléatoires? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Les critères ont été bien pensés, ils sont dans la Constitution. C'est peut-être les gens sur lesquels le peuple avait fondé ses espoirs qui se sont comportés de la manière qu'ils se sont comportés et qui ont déçu ces espoirs-là. Mais les critères en eux-mêmes sont justes et si vraiment les gens pouvaient se comporter comme on attendait d'eux, on n'aurait pas obtenu les résultats que nous avons. Ça, c'est la première impression. La deuxième, c'est que les neuf membres dont nous parlons là, c'est à la fois la composition, le nombre de magistrats qui composent la Cour, et aussi le nombre des juges qui doivent siéger, qui doivent être présents pour que la Cour puisse siéger, prendre une décision. Donc, neuf doivent être présents, les neuf membres qui composent la Cour doivent être présents, à défaut, sept. À défaut, sept. Pourquoi on a pris les neuf? Tout simplement parce que avoir les compétences de la Cour se prononce sur la Constitution. La Cour est le juge pénal du chef de l'État et du Premier ministre. La Cour, c'est la juridiction suprême. On ne peut pas permettre qu'un nombre insignifiant, un petit nombre de personnes puisse prendre une décision qui va influer sur l'avenir du pays, sur le fonctionnement de toutes les institutions. Voilà pourquoi nous avons exigé que tous soient présents avant de siéger. Maintenant, avec la modification proposée par le gouvernement, si donc nous devons passer à 5, si nous devons passer à 5, c'est-à-dire la majorité des 5, c'est 3. 3 personnes peuvent donc décider de la suite des événements du fonctionnement des institutions. C'est une aberration. C'est ainsi que j'avais parlé de l'opportunité. Est-ce que cette modification-là, elle est opportune? J'avais aussi parlé du ratio legis. Qu'est-ce qu'on veut? Quel est l'objet de cette modification? Quelle est la raison d'être de la modification? Qu'est-ce qu'on cherche? Là, je suis d'accord avec l'auditeur qui a parlé
de la finalité.
L'opportunité politique. Ça, c'est politique. C'est la politique, en fait, qui semble tenir le droit en état. C'est la politique. Et je veux rappeler la notion de l'occasion de la loi. L'occasion de la loi n'est pas à confondre avec l'opportunité de la loi. L'occasion de la loi, c'est quoi? C'est l'événement à la survenance duquel, ou grâce à la survenance duquel, le législateur se fonde pour modifier sa loi. Et dans les cas d'espèce, c'est l'incident malheureux qu'il y a eu à la Cour, où les membres de la Cour avaient été obligés de siéger plutôt à 5, en violation à la fois de la Constitution et de la loi organique. Et ils veulent peut-être, croyant résoudre la difficulté, ils veulent ramener le quorum de siège à 5, juste pour résoudre leur problème. Mais si vous ramenez à 5, la Cour ne saura même pas siéger. Deux chambres ne pourront même pas siéger à la fois. Parce que si 5 sièges, ils sont 9, les 4 autres feront quoi? Ils ne feront rien, ils ne pourront pas composer une chambre. Donc c'est une modification en fait qui ne se justifie pas et qui est vouée à l'échec. Parce qu'au niveau de l'Assemblée plénière, on n'en a pas encore débattu. Et j'ai même appris des collègues qui sont membres de la commission que le texte aurait déjà été retiré de la commission. Et il est renvoyé au bureau et le bureau va saisir l'Auguste Assemblée et on va en discuter là-bas.
Alors, je ne sais pas si nous lisons, bon, parce que vous l'avez demandé, l'article 2 qui parle de la composition de la Cour. La Cour comprend 9 membres âgés de 45 ans au moins, choisis pour leur bonne moralité. Elle est composée de 2 personnalités reconnues pour leur probité et leur sagesse, dont une proposée par le bureau de l'Assemblée.
Voilà. L'article 2 de quel texte?
De la loi organique portant...
C'est pas le règlement intérieur, c'est la loi.
Voilà, la loi portant création, organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
Composé de 2 membres.
Oui, donc il y a 2 personnalités reconnues pour leur probité et leur sagesse, dont une proposée par le bureau de l'Assemblée nationale et une proposée par le président de la République, 3 magistrats ayant au moins 20 années de pratiques désignées par leur père et un avocat ayant au moins 20 années de pratiques élues par ses pairs également.
C'est le texte, l'article premier de la loi.
L'article 2.
L'article 2.
Oui. Voilà, donc
l'article premier dit quoi?
L'article premier dit la Cour constitutionnelle est la juridiction gardienne de la Constitution.
Là, ça m'étonne.
Voilà. Donc,
n'est pas le texte que c'est pas le texte que moi j'ai rédigé au Sénat. C'est au pas Sénat. Celui-là.
Voilà.
Je ne l'ai pas sous les yeux. Pas celui-là. Vous lisez un autre texte.
Voilà, d'accord. Alors, dans ces cas, on va poursuivre avec les auditeurs aussi. Nous vous gardons en ligne, honorable Ekombe Petit. Ingénieur Valérie, vous êtes à Kindu, bonjour.
Bonjour JR et bonjour à l'honorable notre invité du jour. JR, je dois vous dire que c'est regrettable lorsque nous devons apprendre que la Cour constitutionnelle veut modifier son règlement d'ordre intérieur de cette manière. Pourquoi je l'ai dit? C'est compte tenu de la haute importance, de l'importance cruciale que joue cette Cour dans la vie du peuple congolais. À lire vrai la Constitution de la République, vous réaliserez que cette Constitution a 3 degrés de sécurité. Le premier degré, c'est le chef de l'État, en tant que garant de la Constitution et du bon fonctionnement des institutions. Le deuxième degré de sécurité, c'est la Cour constitutionnelle. Et le troisième degré, c'est le peuple lui-même en tant que souverain primaire. Donc, on ne peut pas s'amuser avec la Cour constitutionnelle, sinon c'est la rue qu'on favorise. D'autant plus que lorsque nous aurions échoué à son niveau, ça sera pour qu'on appelle aujourd'hui qu'il y a des soulèvements à gauche ou à droite. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, nous, à travers la manière dont la loi est élaborée, nous pouvons arriver à déceler l'interprétation ou, si vous voulez dire, le but du législateur. Il y a, à ce niveau-là, je peux ressortir 3 degrés d'interprétation en droit. Le juriste est là, où ils sont nombreux en ligne, celui qui ne sera pas d'accord n'a qu'à me contredire et j'en serai fier. Lorsque on interprète une loi, juridiquement, on commence par lire l'article concerné. À ce niveau, on a l'interprétation textuelle. Par après, on procède à une lecture de l'ensemble d'articles ou de dispositions qui convergent. Et on décrit le contexte. On est dans l'analyse ou dans l'interprétation contextuelle. Et de là, on peut dégager le but du législateur ou les ratios légistes. Mais puisque le règlement d'ordre intérieur procède de la Constitution, je me permets seulement de comprendre pourquoi on a parlé de 9 membres, pourquoi on a exigé qu'à la limite on peut siéger à 7 quand la Constitution parle de 9 membres. Vous avez bien remarqué, comme je venais de le dire, que le troisième degré de la sécurité, c'est le peuple. On ne peut pas prendre les affaires d'un pays, de 80 millions de Congolais, les laisser entre les mains de 3 juges, par exemple, au cas où 2 ne sont pas là pour...
Oui, notre invité venait d'ailleurs de le mentionner.
Ok. Maintenant, lorsque je me réfère à l'alinéa 2 de l'article 158 de la Constitution, on dit ceci. Les 2/3 du membre de la Cour doivent provenir de la magistrature. Et l'invité aussi l'a dit. À supposer maintenant que ce jour-là pour statuer, il y a 3 juges qui ne sont pas des magistrats. Donc la Cour peut alors siéger avec 3 juges qui ne sont pas des magistrats parce que le règlement de l'intérieur le dit. Par conséquent, j'ai dit que cette modification est sans objet, elle doit être retirée. Deuxième élément maintenant sociologique, et aussi même juridique encore. Je pense que lorsqu'un mariage a des problèmes, les anciens ont toujours demandé « Bana, bino boye, bana ki wapi, bo bande na ki wapi ». Lorsque les affaires d'une cour des serrons doivent commencer par la tricherie, en ne passant pas par l'Assemblée plénière, pour se retrouver directement dans une commission PAJ, déjà ça insinue un mal. Et une telle cour ou une telle révision ne sera que porteuse des germes des conflits, d'où pour moi elle est à retirer et ne plus jamais revenir jusqu'après les élections, et je vous remercie.
Alors merci parce que vous avez chéri ce que venait de dire d'ailleurs notre invité tout à l'heure, que selon une source, cette loi serait déjà retirée d'ailleurs, ce projet de loi serait déjà retiré de la commission. Est-ce qu'on va vérifier quand même avec Toussaint Alonga? Maître Toussaint, vous êtes avec nous et vous êtes député national. Maître Toussaint, vous êtes avec nous? Voilà, le temps que la ligne s'améliore, on revient à vous, honorable Ekombe, Mpetit, Toussaint. Vous êtes député national et ancien président de la commission PAJ du Sénat. Il y a un auditeur tout à l'heure qui, restant donc dans la procédure législative, demande à ce que si une pareille loi arrivait au niveau du Sénat, par exemple, vous n'êtes plus sénateur, que tout soit bloqué au niveau du Sénat.
Non, j'insiste d'abord sur le texte que vous avez sous les yeux là.
Oui.
Le texte que vous avez sous les yeux, dont vous venez de donner lecture, n'est pas la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Vous lisez un autre texte.
Oui, quel est l'original du texte?
Non, je vous ai dit que je suis dans ma voiture, je n'ai pas le texte sous les yeux. Certainement qu'il y a des auditeurs qui nous suivent, qui ont les textes, qui vont apporter la précision. Ce n'est pas ce que vous lisez là, c'est pas la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Et là, on risque d'induire les auditeurs en erreur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le texte n'est pas encore débattu en séance plénière. Il est passé directement en commission PAJ, c'est une violation de la procédure. Et j'avais appris que la commission l'a renvoyé au bureau. Peut-être que le bureau va le présenter en séance plénière et nous allons en débattre. Alors, il y a un auditeur qui avait dit tout à l'heure que s'il n'y a pas dans la composition, il n'y a pas de magistrats, donc là, est-ce que la Cour peut siéger? Non, le problème, c'est qu'il faut 9 membres. 9 membres dans la composition de la Cour, et les 9 membres ont 3 origines. 3 origines différentes, proviennent de 3 origines différentes. Bon, maintenant là, quand les 9 sont là, ils doivent être tous présents pour siéger. Ils sont 9, ils siègent, nous avons toutes les compétences, toutes les sensibilités, toutes les vues, ils sont exprimés là-bas et puis ils prennent une décision. Les juristes, les magistrats, les avocats, les politicologues, ils sont là, ils prennent la décision et la décision va s'imposer à tout le monde. Bon, s'ils ne sont pas 9, 7 peuvent siéger. Alors, s'ils ne sont pas 7, ils ne peuvent pas siéger. Ce qui a été fait dernièrement avec les 5, c'était une violation manifeste de la loi. Et nous disons que pour nous, pareille décision n'existe pas. Elle n'existe pas. Et le gouvernement veut en fait profiter de cela pour réduire le quorum à 5. Mais le chemin est encore long à parcourir.
Alors on va, je crois que Toussaint Alonga nous a rejoint à ce niveau du débat. Toussaint, vous êtes avec nous, maître? Oui, maître Toussaint, vous êtes avec nous? Voilà, décidément, on a des petits soucis. Bon, on prend d'abord Félicien qui est à Kinshasa. Félicien, bonjour.
Oui, bonjour, Gilles. Bonjour à tous, Gilles de Radio Okapi.
Alors, Félicien, quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, entendre tout ce qui se dit là-bas, et moi, je vous dis que ça s'appelle la médiocrité de la classe politique que nous avons. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que ces gens qui sont partis à San Sisi n'ont fabriqué une constitution. Et il n'y a même pas 10 ans, 15 ans, aujourd'hui, ils commencent à tout modifier, à tout calquer sur leur volonté, leurs intérêts personnels. Et quand les hommes politiques agissent comme ça pour des intérêts personnels, donc ils ne peuvent pas diriger un pays parce que le pays, c'est l'intérêt général. Et là, ça montre déjà que on est en train de préparer la tricherie, et c'est comme ils ont commencé tout ça, c'est pas pour un avenir meilleur.
Voilà, merci beaucoup Félicien d'avoir appelé 081-890-63-81 ou bien le 081-890-49-69 pour votre intervention en direct.
Congolaises, Congolais, l'enrôlement des électeurs tire à sa fin. Allez-y vite vous faire enrôler dans le centre d'inscription de la CENI le plus proche de votre maison, dans votre commune ou dans votre groupement.
Comment s'enrôler?
C'est facile, il suffit de vous rendre au centre d'inscription le plus proche, muni de votre pièce d'identité ou tout autre document officiel autorisé.
J'ai ma nouvelle carte d'électeur, je voterai. Et toi?
Parole aux auditeurs.
Voilà, une fois encore, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous le rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine des chances citoyens. Je vois que la ligne s'est améliorée. Maître Toussaint Alonga, vous êtes avec nous en ligne.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Voilà, vous êtes député national. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que, disons, les bruits des couloirs sont vrais, mais en commençant par réduire un peu le volume de votre poste récepteur, parce que ça fait un mauvais retour à l'antenne.
Oui, je vous remercie, je suis bien en ligne. Je voudrais remercier les auditeurs de la radio Okapi, mais je voudrais également remercier mon très cher grand frère, collègue et confrère qui est votre invité. Donc, je reste à votre disposition.
Alors, est-ce que vous confirmez que ce projet de loi venait d'être retiré au niveau de la commission par le bureau de l'Assemblée nationale?
Je le confirme parce que depuis le 15, la conférence de présidents autour de la question a estimé de retirer au niveau de la commission pour ramener cette question au débat à la plénière et a réalisé que il y a eu violation, l'entorse par rapport à la procédure, ils ont retiré ça. Si c'était cette dénonciation, les choses allaient continuer comme si la procédure avait été respectée.
Alors, la proposition de réduire les quorums des sièges, comment commentez-vous cela?
Oui, vous allez d'abord constater que quand vous lisez l'exposé des motifs de cette loi, ils ont évoqué un certain nombre des préoccupations, à savoir l'assouplissement aura pour avantage de créer des chambres qui permettront à la Cour d'examiner des affaires dont elle est saisie. Elle permettra ainsi la célérité et la dispensation de la justice. Toutes ces séries de motivations sont faux. On estime créer d'autres chambres, ainsi il faut réduire la composition à 5 au lieu de 9. Et quand vous lisez l'exposé des motifs et les conclusions de cet exposé, c'est la nuit et le jour. On ne comprend rien. Qu'est-ce que exactement le gouvernement voulait dire? On l'exposé dit autre chose, la conclusion, c'est la nuit et le jour. Et voilà pourquoi. Et même quand vous lisez la dernière page, vous allez constater que le gouvernement dit que la présente loi s'articule autour de 4 points. Or, le premier projet de loi n'avait pour conséquence que n'avait pour traitement que les questions liées aux frais de justice. Le deuxième projet de loi additif, c'est ce qui traite la proposition de la Cour constitutionnelle revue à 5. Maintenant, la dernière page de cette proposition, on prend ces deux projets de loi, on l'insère dans une même page comme si c'était un même projet de loi. C'est là où il y a la tricherie. Et maintenant, ici, on dit, les présentes lois s'organisent, s'articulent autour de 4 points, dont l'article... Alors qu'on sommes devant des projets de loi. Ben, voilà un peu la tricherie manifeste de la part du gouvernement de la République.
Mais le problème,
il y a un problème de saisie, tout ça là. Et si c'est d'abord au niveau des projets lui-même, il y a un problème, et même dans son écriture. Secondement, il y a un problème de procédure parlementaire. Au lieu de commencer par la plénière, on les ramène directement au niveau de la commission. Tout cela, ni c'était notre vigilance, cette affaire allait passer. Et c'est devenu pratiquement une réalité que nous constatons actuellement à l'Assemblée nationale.
Oui, mais maître Toussaint.
Vous votez des lois autrement,
oui,
au niveau de la commission modifie des lois ou même après le vote, par rapport à élaguer quelques écueils, mais les lois sont modifiées et quand on les promulgue, c'est autre chose. Et quand au niveau des journaux officiels, c'est autre chose. Je vous donne le cas, la loi sur... Il y avait une loi qui a été promulguée par le président de la République qui demandait, pendant les vacances parlementaires, de la loi liée, comment on appelle ça, l'ordonnance de loi sur... j'ai perdu de vie, je vais y revenir. Nous avions dénoncé, il y a eu également plusieurs dénonciations de cas pareils où la loi votée au niveau de la Chambre, et quand on les publie, au niveau des journaux officiels, c'est autre chose. Cette façon de faire, nous les décrions comme législateurs.
Oui, mais la grande question...
Vous allez comprendre motivation de ce projet de loi et par rapport à ses conclusions, c'est autre chose. Quel est le vrai problème aujourd'hui? ce n'est pas innocent lorsque on veut réviser l'article 90 et par rapport aux propos du secrétaire général de la majorité, M. Atundu, sur le référendum. Ces deux choses se marient et par rapport à ces mêmes circonstances politiques. Et donc, toutes les questions telles que soulevées par l'invité et les différents, différents intervenants vont dans le même sens. Donc, pour nous, nous concluons que politiquement, le gouvernement a une autre visée par rapport à la révision de cet article.
Merci.
Nous l'avons dit lorsque j'ai été invité, nous l'avons dit qu'il y a des choses éminemment importantes à garder, notamment la composition à 9 ou soit à 7. Raison essentielle, c'est de garder l'équilibre institutionnel et de garder l'équilibre politique. Ces deux éléments majeurs ne peuvent jamais être élagués parce que l'opposition, c'est l'image des trois différentes institutions nationales. Président de la République, Cour des tribunaux et le Parlement composé de ces deux chambres.
Voilà.
Et la guerre nous a mené les grands problèmes institués par rapport à la majorité décisionnelle.
Merci beaucoup Maître Toussaint d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Alors nous rappelons que la Cour constitutionnelle de la RDC a été installée officiellement à avril 2015 et les 9 membres désignés et nommés par le décret présidentiel ont prêté serment, c'est même 4 avril, en présence des bureaux de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil supérieur de la magistrature. Il faut dire que la nation congolaise, dans toute sa diversité rassemblée, a salué l'avènement de la plus prestigieuse de ces institutions judiciaires, à savoir la Cour constitutionnelle. Alors c'est là, soit 55 ans après l'indépendance du Congo, cette prestation de serment concerne ses membres et ceux du parquet général y rattaché. Alors est-ce que le débat, nous en ouvrons avec vous, nous allons retrouver honorable Lutundula qui a appelé, qui vient d'appeler donc pour participer également à cet échange citoyen. Vous l'avez suivi, il y a Guy Blaise Kititi qui se poser la question sur l'opportunité ou non de modifier cette loi organique. Pour quelle finalité juridique, sociologique ou politique? Ben lui, il semble qu'il s'agit là d'une finalité purement politique et non autre chose. Est-ce que honorable Lutundula qui est en ligne peut nous en dire un peu plus? Honorable Lutundula, vous êtes avec nous?
Merci beaucoup. Je voudrais d'abord intervenir sur la disposition que vous avez lue. Vous avez parlé de l'article 2 de la loi organique 013/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. J'ai l'impression que le texte que vous avez n'est pas correct. Voici l'article 2. D'abord, titre 2 de l'organisation, chapitre 1er de la composition. Article 2. La Cour constitutionnelle, si après la Cour, comprend 9 membres nommé par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réuni en congrès, et 3 autres par le Conseil supérieur de la magistrature. Il ne peut y avoir ni 2 membres parents ou alliés jusqu'au 3e degré, inclusivement, ni plus d'un membre issu d'une même province. Les procès-verbaux constatant la désignation des membres de la Cour, autres que ceux désignés par le président de la République, sont transmis à ce dernier dans les 48 heures aux fins de leur nomination. Voilà l'article 2. Donc je ne sais pas à quel article.
Voilà. Alors quand on parle de 9, quand on parle de 9 membres, oui.
Oui.
Quand on parle de
Oui. Ce qui choque, ce qui révolte, ce qui fait suspicion dans cette affaire, c'est que la loi a été déjà violée concernant le quorum de siège dans les cas qui ont été évoqués par mes collègues à Longa et Combé. Maintenant, on veut régulariser la violation de la loi. C'est complètement ridicule. Complètement ridicule. Et la procédure frauduleuse, allons comme vous l'a dit, et comme vous l'a dit, je les appelle comme ça parce que ce sont des collègues, je confirme. C'est, un gouvernement de la République ne procède pas par des dribblings hors terrain, si je peux emprunter le discours du sport. Non, il faut la transparence, il faut le débat démocratique. Et aujourd'hui, c'est in tempore suspecto. Cette réforme-là, un gouvernement n'initie pas de réforme rien que pour des motivations techniques. La loi s'élabore, s'écrit techniquement, mais elle se conçoit, elle s'élabore
Oui, honorable Lutundula, mais on a l'impression que aujourd'hui c'est la politique qui tient les droits en état. Donc je crois que la question qui est soulevée aujourd'hui, y a-t-il opportunité de pouvoir modifier cette loi organique?
La politique tient
le droit en état.
Tout en état. Mmh. Je dirais le tout. Il y a quelqu'un qui l'a rappelé si opportunément, parce qu'on parle d'opportunité. C'est normal, c'est pas une nouveauté. C'est comme ça même dans les sociétés antiques. Ça se conçoit d'abord pour réaliser des objectifs politiques au sens noble du terme. Ça ne peut pas heurter. Mais ici, c'est la mauvaise politique et il n'y a pas d'opportunité. Quelle est la question qui se pose aujourd'hui qui pousse à ce qu'il y ait une réforme proposée par de procéder...
Oui, mais il y a eu un problème le quorum n'était pas atteint lorsqu'il fallait interpréter la réquisition de deux tiers de députés de la majorité sur l'interprétation de l'article 70. C'est de là qu'est parti, c'est des effets...
Je vous réponds.
Oui.
Y avait-il impossibilité absolue de réunir ce quorum-là? Est-ce que les magistrats qui étaient absents ou qui se sont absentés, ils n'avaient pas moyen de le retrouver? 1, 2, écoutez, la loi c'est la loi, pessimalex c'est de l'ex. Même si la loi est la plus mauvaise, c'est la loi. Et quand elle est en vigueur, on l'applique. Si on ne veut pas l'appliquer, on procède d'abord par sa modification pour mettre les choses en état et on applique les nouvelles dispositions. Si on raisonne, parce que le Congolais c'est comme ça, l'effet précède le droit. Non, l'effet précède le droit, c'est du point de vue de la source sociologique du droit. Mais quand il y a un droit positif, quand il y a les règles de droit, il faut les appliquer. Sinon alors, on peut nous amener n'importe quoi, on peut avoir un chef...
Voilà, merci beaucoup.
On va régulariser après.
Merci beaucoup, honorable Lutundula.
Nous l'accepterons.
Oui. Voilà, on passe à Franck qui nous a rejoint également, il vient de Vienne. Franck, vous êtes avec nous, bonjour Franck.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour
voilà.
À
Franck, vous n'avez
que...
Voilà.
Bonjour
oui,
à
Franck.
Tous les amis qui se sont...
Oui, Franck.
Exprimés.
Oui, Franck.
Oui.
Vous ne faites avec une minute. Comme ça, on conclut avec honorable Combé.
Ça va. Oui, par rapport à toutes les descriptions juridiques et procédurales telles qu'évoquées par l'invité et certains intervenants, je crois qu'il faut peut-être ajouter cet aspect. C'est depuis déjà 2012... que la majorité présidentielle commençait à mettre en place une stratégie pour reporter les élections sine die. Et puis nous avons vu, il y a eu l'apparition d'un ouvrage, il y a eu tentative en 2015, il y a eu dialogue octobre, il y a eu dialogue décembre, et si nous voyons comment toutes ces résolutions de ces dialogues sont matérialisées, c'est tout est en train d'aller pour le maintien, l'obtention des référendums. Je crois que là, on ne peut plus se voiler de face. L'intention, c'est de rester au pouvoir. Mais puis, soyons quand même sérieux. Donc, on ne peut pas quand même gérer tout un peuple, tout un pays de 80 millions d'habitants à base des ruses, comme si tout Congolais était naïf, comme si tout Congolais était idiot et est vraiment incapable de comprendre le jeu qui est en train d'être fait en face de nous. C'est quand même étonnant et ridicule.
Donc, merci.
Aucun système politique ne peut se maintenir au pouvoir jusqu'à la fin du temps. Il y a un début et une fin, et nos amis qui sont au pouvoir devaient comprendre que chaque révolution se prépare à base des erreurs qui se commettent quand on est au pouvoir. C'est quand même ridicule.
Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé de Vienne. On revient à vous, honorable Ekombe, un petit Toussaint. Vous êtes député national et ancien président de la commission PAJ du Sénat, législature 2006. En un mot, qu'est-ce qu'on peut retenir? Il n'y a pas opportunité.
Il n'y a pas opportunité. La raison d'être de la modification projetée n'est pas claire, elle est floue. La procédure suivie par le Parlement, le bureau du Parlement, qui a déposé le dossier, le projet de loi directement en commission, sans organiser d'abord un débat en plénière, et constitue une violation de la Constitution. Opportunité, il n'y en a pas. Procédure biaisée, violation de la Constitution, violation du règlement intérieur. Et même si aujourd'hui on arrivait à modifier ce texte-là, ça ne va résoudre aucun problème au niveau du fonctionnement de la Cour, parce que il n'y aura pas deux chambres de la Cour qui pourront siéger concomitamment.
Voilà. Donc, le projet de loi a été retiré au niveau de la commission et devra être soumis à la plénière pour un débat dans les jours à venir.
Si le bureau peut bien le faire, hein, si le bureau peut bien le faire, parce que nous avons déjà vécu par le passé des textes qui sont soumis à plénière, qui sont retirés, qui ne sont jamais revenus. Je suis en train de prier pour que celui-là ne revienne pas, parce que ça serait une honte.
Merci beaucoup, honorable Ekombe Mpeti Toussaint, député national, ancien président de la commission PAJ du Sénat, législature 2006, d'être des nôtres et d'avoir accepté d'échanger avec les auditeurs. Nous terminons cette émission par ici et nous disons merci à toute l'équipe qui a concouru à la production et à la réalisation de cette émission, Piero Elamegi, Nico Kalambay et Jean-Claude Tiala. Cette émission qui vous a été coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Angie sous la supervision de Martin Sebou Jangwe. À très bientôt.
Merci.